En sol majeur vous propose cette rediffusion.
RFI, au festival Nous Assamo de Trècheville.
En sol majeur. Yasmine Chouaki.
C'était un rêve en sol majeur, venir jusqu'en Côte d'Ivoire pour Sanjaye à Trècheville. On a trouvé le contexte et le prétexte. Un week-end spécial autour du festival Nzassa Mode, initié par le grand styliste Sis Saint-Moïse, qui sera notre invité demain. Festival placé sous le signe, pas des motos de Trècheville, mais sous le signe de l'afro-optimisme. Sans doute pour ça que Nzassa Mode marche main dans la main depuis 3 ans. Avec la maison Guerlain, dont l'ambassadrice est juste à mes côtés, j'ai nommé la princesse burundaise Esther Kamatari, qui a eu plusieurs vies.
V. Comme vie des quartiers.
Mes hommages, princesse.
Comment allez-vous, chère Yasmine ?
Formidable, on est ensemble dans ces rues de Trècheville, comment aller mieux ?
Ah, ça c'est vrai alors.
Vous êtes déjà venue ici ?
Oui, j'adore cet endroit. Les gens sont assis, vous regardent, ils sont souriants. Ça grouille de vie. Il y a des couleurs. Tout est possible. Vous pouvez acheter à manger au coin de la rue ou vous acheter un savon à l'autre coin de la rue. Ou regarder les dames qui déambulent, ou la moto qui passe, bonjour. Et qui dit même bonjour. C'est magnifique, non ?
Il est quasiment 16h, c'est l'heure des écoliers qui sortent des écoles. Et on a l'impression que la vie est un petit peu suspendue en même temps à Trècheville à cette heure-là.
Je crois que la vie ressemble à ces jeunes étudiants en kaki qui marchent tranquillement. Mais je crois qu'il y a quelque chose de fabuleux ici, c'est qu'ils ont le temps, et ça se sent.
Est-ce qu'une princesse burundaise comme vous, vous n'êtes pas que ça, on va le raconter, mais a des attaches avec la Côte d'Ivoire en général, et avec Trècheville en particulier ?
La princesse a les attaches avec ses racines, avec sa culture, avec son continent. Et aujourd'hui, bien entendu, elle a des attaches avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays émergent, qui est un pays innovateur, est un pays de création. Oui, j'ai des attaches magnifiques avec Sis Saint-Moïse, grâce à qui je reviens ici pour la deuxième édition pour le Nzassa, dans lequel j'ai été la première à initier le street show. Parce que quand vous voyez tous ces tailleurs, en général, la mode est réservée aux gens en haut, très puissants, comme vous regardez nos défilés en France. Mais il n'y a rien de plus beau que de faire un défilé lumière-jour avec toutes ces personnes qui, de près ou de loin, travaillent dans cette industrie et qui peuvent être fières du rendu de leur travail.
Alors justement, j'aimerais qu'on profite de votre regard d'experte et en beauté, n'est-ce pas, princesse ? Vous qui avez été mannequin, premier mannequin noir à monter sur les podiums français. On a du public déjà, on a tous les enfants de Trècheville autour de nous.
Plein d'enfants, bonjour.
Si vous deviez faire un casting comme ça, improvisé, auprès de ces femmes qui sont là, à portée de regard, dans les rues de Trècheville.
Aurélie !
Comment ça va ? Mais n'ayez pas peur ! Bonsoir. Castinguer, ça veut dire qu'on choisit quelqu'un par rapport à l'autre quelqu'un. Je préfère qu'il vienne parce que mon rôle, c'est de transmettre la posture, l'élégance et l'art du beau.
Regardez, on a une jeune femme qui passe avec une cuvette sur la tête qui est pleine de vaisselle.
Oui, cette élégance où elle marche avec fluidité, où elle anticipe tous les mouvements. Et vous voyez bien que cette bassine ne va pas basculer, elle se tient droite, elle a la posture. Et on a l'impression qu'elle n'a rien sur la tête.
Elle marche comme un mannequin, vous diriez ?
C'est les mannequins qui marchent comme elle.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée
d'un défilé comme ça dans les rues de Trècheville.
Ce qui m'a donné envie, c'est justement ces regards. Eux aussi, ils ont droit à la beauté. Parce qu'ils travaillent beaucoup et tout leur travail part ailleurs. Et ils n'ont pas la possibilité d'admirer ce travail.
On va continuer à parler de beauté. On va raconter également l'histoire de princesse Esther Kamatari. Dans l'atelier de 6 Saint-Moïse, c'est un petit peu climatisé, c'est pas mal pour continuer cette conversation
oui,
en sol majeur.
Hein. Ah, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand même, ça fait du bien, cette chaleur.
Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est quoi la première chose que vous faites?
La chose la plus extraordinaire que je remarque depuis que je viens, c'est que quand on commence à descendre sur le continent et qu'on traverse la Méditerranée et qu'on commence à voir les sables du début de l'Afrique, il y a toute cette chaleur qui monte dans l'avion. J'ai vraiment l'impression de mettre mes doigts dans une prise électrique. Mais j'ai l'impression que je suis une batterie qui se charge. Et donc pour moi, l'Afrique, Abidjan, là, ça me charge.
Alors qu'on est dans l'orange blanc vert, ici en Côte d'Ivoire, on va parler un petit peu de cette vie qui a commencé pour vous en France à 19 ans en 1970, lorsque vous quittez dans des conditions dramatiques qu'on racontera plus tard, votre Burundi. Vous êtes une princesse africaine déchue qui arrive au pays d'Alain Delon, au pays des Blancs. Comment vous rejoignez ce monde de la mode et ce monde des magazines papier glacé?
Je crois que la vie est toujours une histoire de rendez-vous. Jamais je n'aurais pu imaginer faire partie de ces papiers glacés, mais je crois que je suis rentrée dans cette vie parce que j'avais faim. Que je n'ai pas pu poursuivre mes études parce que je n'avais pas les moyens, pas de bourse, parce que j'avais fui ce pays qui tue les pères. Et donc je suis rentrée dans la mode vraiment par hasard, mais finalement je crois qu'il n'y a pas de hasard et que le hasard est le mécanisme le plus précis au monde. Je suis arrivée au bon moment, je suis arrivée avec une éducation, je suis arrivée avec une histoire et je me souviens quand je prenais le téléphone pour appeler les maisons de couture, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'agence, je disais bonjour, je suis la princesse Esther Kamatari. Je serais ravie de vous rencontrer. Puis je pense que de l'autre côté, la personne qui répondait devait être tellement subjuguée, interloquée, que par curiosité, elle me donnait rendez-vous. J'arrivais et très probablement n'osait pas me dire que... et puis sans doute pour se dédouaner, me faisait essayer un vêtement et il s'avérait que quand je l'essayais, c'était waouh. Ça a commencé comme ça.
On vous a repéré dans la rue, classiquement?
On m'a repéré quand on s'est rendu compte que j'avais les codes, que j'avais la posture, la tenue, tenir son corps, bouger avec élégance, la politesse.
Vous appelez ça l'allure. Vous avez cette allure si particulière, princesse Esther Kamatari. Vous le devez à la fois à l'éducation religieuse et à l'éducation africaine.
Je crois que je le dois d'abord à l'éducation de ma mère. Rien que de penser à ma mère, je me tenais droite. Et cette maman m'a quittée il y a 3 jours. Il y a 3 jours, cela va faire 27 ans, je crois qu'elle est partie. Elle est partie pour la Journée internationale de la femme. Elle ne pouvait pas partir un autre jour. J'étais chez les sœurs, bien sûr, les religieuses, les sœurs missionnaires. Il y avait la rigueur, il y avait la droiture. Il fallait tenir son corps. Et puis il y avait tout l'exemple de la cour, des gens que je voyais autour de nous. C'est tellement important de se tenir. Quand on ne se tient pas, on part en vrille.
Alors il faut donner quelques noms, même si ce sont des noms qui n'évoquent pas forcément quelque chose pour nous aujourd'hui, mais ils font partie de l'histoire de la mode. Gaston Jeunet fait de vous, c'est important, le premier mannequin africain de France. Puis vous allez travailler chez un certain Christian Ojard et chez Léonard où vous faites la pose, ce qui veut dire.
Ça veut dire que lorsqu'on crée un vêtement, on le dessine d'abord et ensuite on le coupe en patron et après on le fait en écru. Et après, on vous essaye les crus pour voir comment ça tombe. Et c'est simplement après qu'on va le faire dans le vrai tissu. Donc on essaye les prototypes. Et c'est vrai que quand on voit la maison Léonard avec ce que ça a comme histoire, imaginez qu'on faisait les vêtements de Léonard sur moi, c'était quand même une jolie histoire, non ?
Toute cette vie dans le monde de la mode parisienne se passe en 72. 72, c'est aussi le moment des massacres des Hutus et des Tutsis au Burundi. Mais à ce moment-là, dans votre cœur, à vous, princesse, l'Afrique est très loin.
Ah non, non, je l'ai chassé, l'Afrique. Ce Burundi n'existe plus. C'est un pays où ils tuent les pères, les enfants. C'est un pays qui ne construit plus, qui ne développe plus, qui n'éduque plus. C'est un pays qui part en... Je ne veux même pas en entendre parler. Il y a tellement d'autres pays en Afrique que je vais découvrir. Donc, je ferme. Mais, curieusement, je suis toujours la princesse Kamatari du Burundi. Pour ça, il n'y a aucun problème. Je me fâche avec ce pays. Je me défâcherai plus tard. Mais à ce moment-là, je suis très très fâchée avec le Burundi.
Alors, tout en travaillant avec les grands créateurs français de l'époque, Beretta, Mugler, Issey Miyake, Cacharel, ce sont les grands noms de l'époque. Hein. À un moment donné, vous vous réconciliez finalement avec cette Afrique, mais cette réconciliation, elle se fait sur les podiums.
Oui, je vais être la première mariée noire de la haute couture pour Lanvin. Lanvin, c'est quand même une maison exceptionnelle de classicisme. Avec du recul, je me rends compte que ça a été une chose incroyable, parce que même si on regarde dans l'histoire de la mode, on a rarement vu une mariée qui n'est pas blonde aux yeux bleus.
Comment ça se fait que vous avez été choisie ? Comment ça s'est fait, cette histoire-là ?
Mais parce que j'avais du talent.
C'est quoi le talent, alors ? Pour porter une robe de mariée ?
Je faisais la cabine. Faire la cabine, c'est que vous pointez le matin, et on pointait le matin, on est à la disposition du styliste, et puis vous l'inspirez. Et donc, et un jour, M. Kray me regarde, et il me dit, ah, la mariée, comment l'imaginez-vous ? Parce qu'on vous voit dans ces grandes maisons. Et moi, j'avais toujours en mémoire, autant n'importe le vent, vous vous souvenez, la nounou qui rentre dans sa cabane à côté, avec ses cheveux, où elle vient de coiffer avec une brosse... en ivoire, les cheveux magnifiques de Scarlett. Puis elle rentre dans sa petite cabane, elle prend son peigne et ça fait crac crac dans les cheveux. Et moi, j'imaginais cette robe de Scarlett. Et c'est ce qu'il a fait. Une robe de mariée qui était complètement à l'opposé de ce que je pouvais être. Je me défâche quand je porte... Il y a Lanvin qui crée la robe de l'impératrice Catherine de Centrafrique, Bokassa. Et c'est moi qui vais porter la robe du couronnement. Et l'ironie de l'histoire veut que cette robe, qui était faite, pas en écru, mais c'était un espèce de pagne à l'africaine avec des couronnes, des diamants, des bijoux. Et je me souviens faire tous les couloirs des ateliers de Lanvin pour voir l'effet qu'allait faire cette couronne.
Et vous qui étiez fâchée avec l'Afrique, vous n'étiez pas fâchée de porter la robe de Madame Bokassa ?
Non, non, mon métier c'est de porter des robes. Je n'ai absolument pas à juger, mais c'est peut-être à ce moment-là que le petit déclic est en train de s'opérer tout doucement pour ce retour, justement, en Afrique.
En tout cas, en 79, vous tentez la grande aventure aux États-Unis, ce qui paraît logique, parce qu'on se dit, une noire à New York, ça va être le carton. Pas du tout.
Ah, je me suis plantée. Parce qu'à l'époque, dans les années 75, les noires américaines venaient en France, faisaient les défilés de presse, étaient photographiées, rentrer aux États-Unis et devenir des grandes stars. Moi, je me suis dit, puisque j'y suis, je suis déjà photographiée, j'y vais. Mais je me suis plantée. Plantée parce que je n'ai rien du noir américain. Ni le gestuel, ni la couleur, ni les manières, ni les codes. Et donc, la façon de se comporter est absolument différente. Donc, je ne ferai rien. Si, si, je ferai deux choses importantes, à mon avis. Je vais être élue Miss Fashion. Et je vais donc aller recevoir mon prix à Sydney. Faut quand même le faire. De se dire qu'on est né au Burundi, dans les collines, à Fota, qu'aujourd'hui je suis à New York, je me suis plantée, mais c'est pas grave. Donc je vais partir à Sydney pour avoir un prix. Quand j'arrive à Sydney, il y a des grands posters sur lesquels il est marqué « Welcome to the Princess Kamatari from Burundi ». Là, Je trouve que ça le fait quand même. Et je vais faire une double page dans Town and Country, en rédactionnel. Et quand j'ai fait cette page en Town and Country, je me suis dit, ok, maintenant je rentre en France, les autres vont prendre la relève. Donc, carrière aux États-Unis, terminée.
Alors, vous revenez en France. Votre clé, la clé de votre réussite à ce moment-là, c'est une grande candeur en même temps, non ?
Je pense que oui.
Si vous étiez politisée ou militante ou, vous voyez, prise dans une conscientisation de la question noire, etc., peut-être que vous n'auriez pas fait ce même trajet.
C'est possible, mais je ne pouvais pas faire autrement ce trajet puisque mon histoire, déjà au départ, elle est différente. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont vu leur père se faire massacrer. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, partir à l'aventure, c'est complètement différent d'il y a 40 ans. La plus belle des choses, je pense que la clé de ma vie, c'est ce monsieur qui vient vers moi. Je viens d'arriver à l'aéroport. À l'époque, l'aéroport international, c'était quand même le Bourget. Et je sors de l'avion. Et à l'époque, il n'y avait pas de satellite. On sortait de l'avion comme j'étais montée à Bujumbura. Donc, puis pour me tenir dans l'avion, je regardais les autres pour savoir comment ils attachaient. Et puis de toute façon, maintenant, on vous les montre. Et donc j'arrive et je vois, c'est la première fois où je vois un tapis roulant. C'est extraordinaire. Le tapis avec ma petite valise qui faisait le tour jusqu'à ce que le gendarme me dise « Bon, maintenant, ça suffit. » Et je vais m'asseoir dans l'aéroport et je regarde. J'attends. Et au fond de moi-même, je me dis « Je suis la princesse Esther Kamatari. Je suis sûre qu'il m'arrivera quelque chose, mais avec une telle certitude. » Et au bout d'un moment, ou d'un grand moment, je ne sais pas, un monsieur vient vers moi. « Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, vous voyagez, vous arrivez d'où ? Du Burundi, vous êtes attendu, non ?» etc. Puis je lui raconte ma vie. Il m'invite à déjeuner, il m'amène dans Paris, il me loue une chambre à l'hôtel Louisiane, à Saint-Germain-des-Prés, pour 10 jours, il va me donner 2 billets de 500 francs, il va me serrer la main et il va me dire « bonne chance ». Ce monsieur, je ne l'ai plus jamais revu. Ce monsieur m'a ouvert les clés de cette France. Et forcément, quand on a eu un accueil aussi beau, malgré tout, on ne peut que le rendre.
Trècheville, où on se trouve, princesse Esther Kamatari, l'heure tourne, donc je voudrais qu'on laisse tourner maintenant sur notre pick-up un reggae qui, je crois, a une histoire avec une de vos photos. Il s'agit du reggae de I Jaman Levy.
Oui, c'est une musique qui m'a inspirée vraiment beaucoup. Je faisais cette photo avec un modèle de Schiaparelli, un tailleur rose avec une collerette, une espèce de rose, le rose Schiaparelli, parce que celui-là, on ne peut pas l'inventer.
Le rose fuchsia.
Oui. Et le photographe qui s'appelle Didier Massard me met cette musique et cette musique m'inspire dans cette attitude un peu grave, les yeux légèrement baissés, mais même si les paupières sont baissées, en fait, les regards traversent les paupières. Et cette photo, on va l'appeler Chef Indien parce que franchement, j'ai l'air d'être Chef Indien.
Quoi de mieux qu'écouter I Jaman Levy ici à Trècheville en Côte d'Ivoire, tout près d'Abidjan, à l'occasion du festival Nzassa Mode en compagnie d'une reine de beauté. On n'a pas tout vérifié, hein, les ongles, les bracelets, la coiffure, on va y revenir. J'ai nommé donc la princesse Esther Kamatari qui vous espère de retour dans 3 minutes.
Bonjour madame, c'est nous, on vient de venir, on a Paris, ça c'est trop chic ici, très chic, la venue, venir, venir, ouais, au revoir.
Festival Sans Amour de Trècheville. Annie Yasmine Chouakin, Adane Edo.
Parler du Burundi et de la cour royale burundaise ici à Abidjan, c'est d'un chic digne de Trècheville, un chic métissé que l'on doit au festival Nzassa Mode, initié par le créateur ivoirien Sis Saint-Moïse et porté entre autres par les yeux de biche de notre invitée, la princesse Esther Kamatari, premier mannequin noir des podiums parisiens. Elle a défilé en Joséphine Baker au Louvre, a été l'égérie de la maison Lanvin et elle représente aujourd'hui la maison Guerlain. Et sur Croix de Fantaisie, l'ambassadrice du nez français a imaginé un défilé de petites robes noires dans les rues de Trècheville. Donc Trècheville que vous avez eu l'idée de transformer en podium. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir, princesse Esther Kamatari, comment vous-même vous êtes habillée devant en sol majeur aujourd'hui ?
En blanc, comme d'habitude, du 1er janvier à l'autre 1er janvier.
Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créée noire. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir, la couleur de tous les jours. Et je porte le monde depuis l'aube des temps, et mon rire sur le monde dans la nuit crée le jour.
Magnifique.
C'est du Bernard Dadier, on reconnaît tout de suite sa plume, l'immense auteur ivoirien centenaire qu'on voulait saluer comme ça en sol majeur, et qui me permet effectivement de vous retourner cette question. Pourquoi porter du blanc, princesse ?
Il semble-t-il que quand j'étais enfant, mon père, le prince Kamatari, adorait le grégorien. Il chantait à la messe. Et je me souviens que le dimanche, on partait dans deux églises différentes, dans deux missions différentes, distantes de 11 km, parce qu'il chantait dans l'une et il fallait qu'il aille chanter dans l'autre. Évidemment, pour un enfant, c'est passer des heures dans une église, c'est pas très drôle. Et que je commençais à pleurer. Et quand je commençais à pleurer, donc signe que je m'ennuyais, quelqu'un venait me chercher pour me sortir et que je refusais d'être dans les bras de quelqu'un qui n'était pas propre. Du coup, mon père a exigé que toutes les personnes qui m'accompagnaient à l'église soient en blanc. Après, on arrive à créer son identité visuelle. J'ai les cheveux blancs. Le blanc, c'est une non-couleur, mais porter aussi le blanc, ça veut dire qu'il faut être propre du matin au soir.
Cette tenue que vous portez est signée Patéo ?
Oui, le très grand Patéo qui utilise des cotons d'un grand raffinement. Et Patéo a créé ce tailleur pantalon pour moi.
Patéo qui a habillé Mandela.
Le tailleur attitré de Mandela et moi.
En toute modestie.
Absolument.
En sol majeur ici en Côte d'Ivoire, donc pour le festival Nzassa Mode, on y célèbre toutes les modes et tous les moods, même celui du couturier Paco Rabanne. Écoutez-le, ça se passe dans les années 60.
Allons-y, regardez-moi, get out.
La mode est liberté, et le créateur de mode peut, je crois, tout faire, toutes les libertés, tous les pouvoirs. S'il ne ridiculise pas la femme, s'il la met en valeur, il a le droit. Et mon Dieu, pourquoi pas le métal, pourquoi pas le cuir, le rhodoïde, le papier et autres matériaux de lin. Je trouve qu'il est absolument ridicule de continuer à habiller les femmes de tissu, comme au 19e siècle. Dans tous les arts, partout, vous voyez le métal prendre une place, pourquoi pas en mode. Je fais peut-être une mode qui peut paraître violente, mais c'est peut-être aussi une mode de provocation. C'est pour faire comprendre aux gens que la mode peut être autre chose que la tradition.
Panthéon.
On est toujours dans la boutique de Sis Saint-Moïse, ici à Trècheville, et je vous vois les yeux fixés au plafond, princesse, en écoutant la voix de Paco Rabanne. Pourquoi ?
Parce que Paco Rabanne est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Il ne faut pas oublier que Paco Rabanne a été le premier qui a fait travailler des mannequins noirs, qu'il a ouvert des salles de danse pour les Noirs, parce que personne n'en voulait. Et que Paco Rabanne nous a ouvert les portes. Et je crois que là où nous sommes tous aujourd'hui, une des premières personnes à qui on devrait rendre hommage, chapeau, c'est Paco Rabanne.
Vous ne l'aimez pas que pour ça. Il a aussi une manière un peu iconoclaste d'envisager la mode. Il a utilisé des matériaux pas très catholiques, de la viande, des oui, papiers, que sais-je.
Oui, mais j'aime l'homme. J'aime son esprit, son audace. il provoque.
Il est un peu perché aussi, non ?
Qui n'est pas perché, il y en a plein d'autres, mais disons qu'on l'a, sacrifié. Il a été interdit de photos dans Vogue pendant 10 ans pour le punir d'avoir fait travailler des Noirs.
Ah oui ?
Eh oui, quand même.
Donc respect.
Voilà, quand même.
Et fidélité.
Absolument.
Esther, il y a aussi Guerlain aujourd'hui dans votre panthéon. Une princesse noire ambassadrice de Guerlain, c'est effectivement pas banal, je vous l'accorde, mais que Guerlain, qui est emblématique du luxe, défile ici dans ce Trècheville en souffrance, est-ce qu'il n'y a pas là un petit parfum de provocation ?
Absolument pas. Guerlain sublime toutes les femmes, et à Trècheville, il y a des femmes. Guerlain a créé aujourd'hui un fond de teint qui s'appelle lingerie de peau. Et je crois que celles qui vont en bénéficier sont d'abord les femmes de Trècheville, puisque ça va être les mannequins qui vont défiler pour l'Onzassa. Il n'y a pas du tout de provocation. Je pense que toutes les femmes au monde ont droit à l'élégance, à l'excellence, à la beauté. Et être l'ambassadrice du beau, c'est quand même le plus beau métier du monde.
En même temps, Guerlain a résonné à nos oreilles de façon un petit peu scandaleuse. Vous vous souvenez évidemment de la phrase de Monsieur Jean-Paul Guerlain. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé. C'est une phrase qui vous a accueilli, j'imagine, princesse.
C'est une phrase qui est prononcée par une personne et qui n'engage pas les autres. Il y a un proverbe burundais, je sais que vous adorez les proverbes, qui dit que quand il y a un mangeur de chien dans la famille, on dit que tout le monde mange le chien. Non, il a parlé pour lui, il s'est engagé pour lui. Ce n'est pas la première fois qu'on vous traite de nègre. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Donc, ce n'est pas plus choquant que ça. Je comprends que ça puisse heurter. Lorsque ça s'est passé, on m'a appelé en disant « Oui, tous les Noirs doivent aller jeter les produits, etc. » Et j'ai dit « Mais qui vous a dit que j'étais noire ? Est-ce qu'on me calcule en couleur ?» en palette de couleurs, où je suis une femme qui a une identité. Et puis de toute façon, à cette époque-là, M. Guerlain ne faisait plus partie de la maison Guerlain, parce que la maison Guerlain fait partie du groupe LVMH depuis un moment.
Dans le panthéon, en tout cas, de ce festival Nzassa Mode, qui se déroule jusqu'à demain soir, il y a, on en parle beaucoup hein, ici, les Golden Ladies, une centaine de femmes donc parmi les plus influentes et les plus représentatives du leadership féminin. Alors, on ne peut pas les citer toutes, mais est-ce que vous sauriez nous tirer un ou deux noms du chapeau, comme ça ? Une de celles qui remportent quand même vos faveurs ?
J'en prendrai une seule. C'est Aïcha. Aïcha, qui est aux côtés de Sissa Moïse depuis plusieurs années pour soutenir son homme de créateur. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai une infinie tendresse, un énorme respect, que j'appelle général.
Il en faut, hein, de cette nature.
Oui, général. Et de voir une femme drainer les autres, croire en un projet qui, au demeurant, semble fantaisiste, et d'être arrivée à mettre tous ces stylistes ensemble, dépasser les égos, donner de la place, moi, c'est chapeau.
Oui, c'est un projet fantasque, comme vous dites, et qui peut être décalé aussi avec la réalité de la Côte d'Ivoire. Je me suis replongée quand même dans cette actualité dont on parle beaucoup sur notre antenne à RFI. Au début de l'année, la Côte d'Ivoire a été marquée par des mutineries, vous en avez entendu parler, par des grèves aussi de fonctionnaires, et le président Ouattara lui-même craint une explosion sociale qui aboutirait à sa chute. À côté de ça, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, la Côte d'Ivoire, elle enregistre un taux de croissance de plus de 8%. Et on le voit bien quand on se promène, il y a une flambée de construction, on voit une effervescence. Mais est-ce que vous trouvez, vous, princesse, que le mood est à l'heure de la mode ?
La mode est une industrie fabuleuse. C'est un vecteur économique sans précédent. Si les Africains pouvaient prendre conscience de ce que peut rapporter la mode de création d'emplois, je pense qu'il y aurait sans doute beaucoup moins de gens sur les bateaux qui vont s'échouer de l'autre côté. Je crois que la mode, les politiques n'ont pas pris l'ampleur et l'importance de cette industrie. J'en prends pour exemple la Tanzanie qui a interdit l'importation des vêtements usagés pour obliger les industriels du pays de construire des usines, de former des gens. Ils ont la matière première, ils ont des intelligences, ils ont des bras, donc ils peuvent faire autre chose que consommer ce qu'on leur envoie qui a été porté par les autres.
Donc pas vous amenez cette idée de professionnaliser ce monde de la mode ici en Afrique.
Absolument.
Vous vous battez pour ça. Si on retourne dans ce panthéon qu'on évoquait à l'instant, je crois qu'il faut en arriver à la figure de votre père, le prince Ignace Kamatari, membre de la famille royale du Burundi, frère du roi Mwambutsa IV. Comment la fille croquerait le père alors ?
Le souvenir que j'ai de mon père, c'est d'abord ses mains. Il avait des mains immenses. Et avec mon petit frère, qui malheureusement est décédé, on faisait de la balançoire sur son bras. Il mettait son bras comme ça. C'était génial. Donc il avait beaucoup de fantaisie, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. C'est ce papa dont je me souviens. Mais c'est surtout aussi quand je l'ai vu mort. Je crois que la mort de mon père va déterminer ce que je vais devenir aujourd'hui.
Pourriez-vous me fredonner une comptine de votre enfance?
Une comptine de mon enfance. Une berceuse. Hora hora nguinginge, abana baringingwa. Mama, hora katege tege, hora mwiza wiwanje. Mama, imana yakumpaye, iragasanga nshanye, banze ndayoteshe. Mama.
C'est extraordinaire parce que instantanément, en vous écoutant chanter, j'ai vu votre père à l'âge de 16 ans. Vous savez cette photo où il est tout fin, on dirait un elfe presque. Voilà. C'est du Kirundi ?
C'est du Kirundi. C'est une berceuse qu'on chante même aujourd'hui, qui dit, la maman qui est en train de calmer son bébé, et lui dit, Dieu qui a fait que je t'ai eu, qu'il me trouve en train de faire du feu, et je lui demanderai de se réchauffer. Calme-toi mon enfant, les enfants, ça se berce. C'est joli, non ?
Magnifique. Dans cet exil, vous avez réussi à sauver des eaux, si je puis dire, donc une comptine, des proverbes. Hein. Je sais que si on vit un peu avec vous, la conversation est ponctuée de proverbes. Et puis, il vous reste un objet que vous portez là, sur vos genoux. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un dictionnaire. Le dictionnaire français Kirundi. Je crois qu'il y a peu de langues africaines qui ont un dictionnaire. Donc là, j'ai un dictionnaire, et en tournant la page... Sur
c'est un gros dictionnaire.
Ah, c'est un énorme dictionnaire.
C'est un collector, c'est-à-dire il en existe un exemplaire.
Je crois. En tous les cas, 644 pages. Et si je regarde, par exemple, Kuiheba, ça veut dire s'abandonner, de désespoir.
Mais vous l'avez sauvé des autres, quelle manière, ce dictionnaire ?
Et comme beaucoup de choses que j'ai sauvées du Burundi, quand j'avais encore la possibilité d'y aller, de revenir avec un objet, parce que je savais pertinemment que tout ça allait être effacé, comme à l'époque de l'esclavage, avant qu'on fasse monter les esclaves sur les bateaux, on leur faisait tourner autour d'un arbre à oubli, pour qu'ils oublient leur histoire. Peut-être que j'y ai pensé inconsciemment. Et aujourd'hui, il faudrait tourner autour dans l'autre sens pour se souvenir de son histoire. Ça, c'est un héritage qu'on pourra laisser aux jeunes générations.
Est-ce qu'il y a, vous diriez, comment on va dire ça, quelque chose de l'aristocratie qui a été la vôtre au sein de cette monarchie du Burundi, à travers une langue particulière, la langue du palais, par exemple ? Est-ce que cette langue du palais est sauvegardée grâce à ce dictionnaire ?
Très probablement. Mais la langue du palais est une langue extrêmement respectueuse, comme en français. On ne dit pas, par exemple, pour le roi lorsqu'il l'aller dormir, on ne disait pas le roi va dormir. On disait le roi Kuibikira. C'est comme si on se gardait dans un endroit secret sans qu'on puisse y toucher. C'est une langue extrêmement fine.
Le roi se retire ?
Non, il ne se retire pas, il est là. On ne va pas utiliser le langage commun. On ne dit pas, par exemple, manger. D'abord, on ne mangeait pas en public, c'était strictement interdit. Puis on ne disait pas kulia. Kulia veut dire manger, comme on voit, c'est vulgaire. On disait gufungura. Voilà, c'était le langage du Burundi. Le Burundi, quand il était encore vert, quand il était respectueux, quand il était un. Avant toute cette tempête et surtout tous ces changements, parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, il veut effacer tout ce qui était avant, parce qu'il pense qu'il a inventé le fil à couper le beurre. En fait, le fil a été inventé bien avant lui.
Et le fil a été bien coupé. Que reste-t-il de ce Kirundi aujourd'hui ?
Il reste peu de choses. Il reste des princesses Kamatari qui gardent précieusement ce genre de choses. Il reste d'autres Burundais, mais sans doute de ma génération, qui gardent ce secret. Mais au vu de la situation aujourd'hui, les gens ont plutôt faim. Et quand on a faim, on n'écoute pas. Et les autres sont partis en exil.
Alors moi, en lisant votre livre « Princesse des Rougou, mon histoire », qui est paru il y a quelques années chez Bayard, je me suis mis dans la poche des proverbes. J'ai dit, moi aussi je suis une goûteuse de proverbes. Il y en a un que j'aime bien, qui dit « Quand Dieu a fait le Burundi, il a pris une palette de verre et il s'est bien amusé ». Donc vous reste des proverbes et puis des musiques comme l'Inanga.
C'est beau.
Hein. Magnifique, mais il faut nous...
Vous connaissiez pas ?
Révéler ce secret. Non, je ne connaissais pas. Découverte.
L'Inanga est une sitar à 8 cordes qui n'est jouée que par les hommes pour que la dame écoute. Donc c'est vraiment l'hommage.
Un code de courtoisie ?
Oui. Et c'est une musique chuchotée parce qu'il ne faut pas faire peur à la musique. Nambara awambaye nganiwe ngumbuye andakumbuye rubinga atwagendanye tutagenzanya ayitwa bararuhinga numugenzi nifuza ndamukonde imenzi yose
Vous vous souvenez forcément, princesse, du jour où votre père a été assassiné ?
Oui, je me souviens. La nuit, on est venu, il y a quelqu'un qui a frappé sur la fenêtre. Et aujourd'hui encore, le bruit de quelqu'un qui frappe sur une fenêtre me serre le cœur. Parce que c'est vraiment, ça a été vraiment un grand traumatisme. Et donc mon père, quand il a été assassiné, on lui a cassé le crâne avec un marteau. On est monté sur les hauteurs de Bujumbura, on l'a mis dans sa voiture et on a poussé la voiture dans le ravin pour faire croire à un accident. Ça a été un moment, un énorme choc.
Il y a eu quelques années après la mort de votre mère. Où est-elle enterrée, votre mère ? Est-ce qu'elle est enterrée dans un cimetière de Hutu ou de Tutsi ?
Ça c'est drôle parce que finalement, au Burundi, même les morts, ils sont Hutu ou Tutsi. Il n'y a plus de morts. En fait, au Burundi, il n'y a plus de Burundais. Il y a des Hutus, il y a des Tutsis, il y a ceci, il y a cela, il y a des partis politiques. Il n'y a plus de Burundais. Même les cimetières a séparé les Burundais. Ma mère a été enterrée d'abord à Bujumbura. Et ensuite, nous avons demandé de l'exhumer et de la rapatrier dans notre propriété. Elle est enterrée sous un arbre chez nous, sur sa colline de Fota.
Sacrilège de prononcer ce mot de Tutsi ou de Hutu ?
Non, moi ça ne me dérange pas, c'est comme dire les Noirs et les Blancs ou les Asiatiques. Mm-hmm. Simplement, lorsqu'on parle, lorsqu'ils se disent tous Hutu, Tutsi, on dit ethnie. Il y a une chose qui m'interpelle toujours, c'est que pour être d'ethnie différente, à mon avis, il y a deux choses fondamentales qui doivent être différentes, c'est la langue et la religion. Il s'avère que les Burundais ont tous la même religion et que tous les Burundais parlent tous Kirundi. Donc on se tue en Kirundi. C'est bien pour ça que je dirais plutôt que c'est des clans, c'est des familles. Moi, ce que je trouve très dommage, c'est qu'il n'y ait plus de Burundais.
J'ai comme jardin secret.
On y est dans votre jardin secret, princesse. Alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de mode, de votre parcours de mannequin qui a sauvé votre destin de princesse déchue. Et en même temps, on peut se dire que ce milieu frivole et un peu papillonnant de la mode, on peut se demander s'il était bien compatible avec le rang de princesse que vous avez à tenir, déchue ou pas.
C'est complètement compatible. La preuve.
C'est un clown. Hein.
Tout à fait compatible. Absolument compatible.
Non, il y a eu à un moment donné une prise de conscience quand même chez vous, non ? En tout cas, vous avez décidé de mettre vos pas dans ceux de votre père et de votre pays en 87, en créant Burundi Expansion. C'est une société à l'époque qui souhaitait promouvoir l'image du pays et... en 93, au moment des déplacements de milliers de réfugiés, suite à l'assassinat du président Hutu Melchior Ndadaye, là vous vous lancez dans l'humanitaire et notamment vous créez l'association Un enfant par Rugo.
Oui, mais je voudrais réagir sur quelque chose. Pourquoi dire un président Hutu ? Il est président. Il aurait pu être martien. Donc je trouve que le fait de rajouter Hutu, c'est... Il y a quelque chose qui... personnellement me choque. Pour moi, voilà un monsieur qui a été élu le président Melchior Ndadaye sans justifier qu'il soit Hutu ou Tutsi ou autre.
Je le note. Merci princesse.
Donc un enfant par Rugo, oui, le Rugo étant l'habitat traditionnel, vous savez qu'au Burundi, le Rugo, nos Rugo sont ronds comme les maisons. Et à l'intérieur du Rugo, en général, il y avait la maison des parents, des enfants, le bétail et le grenier. Et donc toute l'éducation d'un enfant se passe dans ce sein familial. Et l'idée, c'était de confier les enfants orphelins dans des rougaux pour que ces enfants soient élevés par d'autres, qui ne soient pas forcément leur père ni leur mère, mais pour que ces enfants ne soient pas dans un orphelinat, parce qu'on ne peut pas être fonctionnaire en amour. Donc les gens en général qui travaillent dans les orphelinats, ils sont payés à la fin du mois, mais dans une maison... avec une maman et un papa, l'amour est gratuit. Nous avons perdu le pouvoir politique, mais je pense que moi j'ai gardé le pouvoir humain.
Alors effectivement, depuis 2012, vous menez un combat, vous êtes fière hein, de votre enchaînement. Là. Vous avez un combat autour de la dépouille du roi Mwambutsa IV, votre oncle. Donc, je rappelle rapidement, il a été enterré en Suisse où il s'était exilé en 77 et toute une bataille juridique a été menée autour de ses cendres que les autorités burundaises souhaitaient rapatrier au pays au moment de l'indépendance, au moment du cinquantenaire de l'indépendance, arguant le fait que la dépouille du roi pourrait contribuer au processus de réconciliation des Burundais. Et vous, vous dites non.
Non. N.O.N. Le roi Mwambutsa avait laissé un testament chez un notaire dans lequel il s'est clairement exprimé disant qu'en aucun cas il ne voudrait que sa dépouille soit rapatriée au Burundi ni dans un autre pays par ailleurs. À travers ce message, il rend hommage à la Suisse, pays qui l'a accueilli, qui lui a donné la possibilité de s'établir, et il refuse que sa dépouille soit instrumentalisé pour une quelconque histoire. Donc je vais me battre, je suis en cours là aujourd'hui, de me battre pour l'honneur, mais je pense qu'au-delà du fait que ça soit le roi, je pense que c'est un message aussi pour les générations futures, pour leur dire la seule chose qui peut nous sortir de là, c'est la justice.
Merci Princesse Esther Kamatari pour cette belle palabre en sol majeur ici à Trècheville. En sol majeur avec une petite lichette de Te Deum en mémoire de votre père. En sol majeur avec Facebook et puis en podcast sur notre application Pure Radio, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec un week-end spécial avec René Depestre. À la semaine prochaine.